On est de retour à Par ici la sortie sur les ondes de Choc FM 105.1 et c'est maintenant l'heure de la chronique économique qu'on retrouve à tous les semaines. Et pour ce faire, on retrouve notre collaborateur Brahim Mahmoud. Salut Brahim!
Salut William!
Comment tu vas?
Très bien, et toi?
Oui, ça va bien, merci. Cette semaine, Brahim, pour la chronique économique, on va parler d'un sujet qui a été publié dans le journal L'Express sous ta plume, écrit par toi, à la fin septembre, où on répertoriait que, donc dans ton article, les compagnies de voitures françaises, d'automobiles françaises, ont beaucoup de difficultés à s'implanter et rentrer dans le marché nord-américain pour y faire l'industrialisation. Donc, tu nous as penché sur quelques faits de la raison du pourquoi ils ont de la misère à rentrer comme ça dans le marché nord-américain pour s'implanter vraiment comme une bonne compagnie qui distribue ses automobiles et qui sont des automobiles accessibles aux citoyens nord-américains. Donc, pour nous, Brahim, tu as quelques faits des compagnies, soit québécoises ou nord-américaines, françaises, qui ont de la difficulté, si on veut, à rentrer dans le marché.
Oui, effectivement. Bon, la donne semblerait changer dans les années à venir, puisque on a le président de DS, qui est la nouvelle marque premium de Citroën, Yves Bonnefond, qui a annoncé dans son plan stratégique de vouloir faire rouler la Divine, qui est son nouveau concept, dans les 200 plus grandes villes du monde. Bon, réalistiquement, on voit bien que Montréal et Toronto font partie des 200 plus grandes villes du monde.
C'est les deux seules villes canadiennes qui font partie de ce palmarès des 200 plus grandes villes, si on veut? Est-ce que Vancouver embarque là-dedans?
Effectivement, il y aurait aussi Vancouver, oui. Tout à fait. Et donc, dans son plan, on pourrait considérer, bientôt, nous allons revoir apparaître une voiture française.
Donc, du nom de la compagnie Citroën?
Oui, Citroën, mais en fait, sa nouvelle marque premium est la DS. En fait, ça a été la marque est née il y a un peu plus de 100 jours. Et c'est une volonté, c'est tout nouveau. C'est une volonté de créer, une nouvelle entité avec une nouvelle stratégie économique. Et cette marque premium s'adresse à une catégorie socio-économique un peu plus élevée. On pourrait la comparer à Audi et Volkswagen, donc, ou Lexus ou Toyota.
Donc là, ils viennent de sortir un nouveau modèle, tu as parlé de la Divine, qui voudrait être distribué, si on veut, ou accessible dans les 200 plus grandes villes du monde, mais ça semble pas facile pour lui d'implanter son projet, si on veut.
Effectivement, si on prend les propos de Xavier Pietri, président de la Chambre de commerce française à Toronto, il évoque qu'une des raisons qui explique aujourd'hui l'absence de véhicules français, c'est le coût de redéploiement. Et donc, son analyse est, très juste, puisque redéployer un réseau de distribution pour les constructeurs automobiles, c'est une barrière financière qui est compliquée dans un marché qui est quand même arrivé à maturité. On voit que la maturité s'exprime par le fait que beaucoup de Nord-Américains et de Canadiens ont déjà un véhicule et que le marché en soi est extrêmement bien organisé d'un point de vue marketing. On a des réseaux qui sont implantés un peu partout, donc des concessionnaires. On a une publicité qui communique la valeur ajoutée des constructeurs déjà présents en Amérique du Nord. Et de ce fait, redéployer une flotte de véhicules, recommercialiser, pour rester simple, des véhicules français pour les constructeurs automobiles de l'Hexagone, ça constitue un vrai challenge.
Et là, il y a également le groupe français Bolloré qui, eux, conçoit des automobiles à fonction électrique, donc économique, et ils aimeraient implanter ça à Toronto. Ils ont ciblé Toronto comme une des grandes villes qui a déjà un peu son système de partage de voitures électriques économiques avec les Car2Go, où on retrouve principalement et même simplement des Smart, les petites automobiles qui sont décorées donc en blanc et bleu Car2Go, qui sont disponibles dans plusieurs stationnements de la ville principalement au centre-ville, mais chacune des grandes villes, si on regarde en Amérique du Nord, a à peu près ce système-là, si on veut, de voitures électriques disponibles pour les citoyens. On a un système similaire à Montréal, je suis à peu près sûr. Également, à Vancouver, il y a un système comme ça. On peut parler des grosses villes américaines également. Mais qu'est-ce que Bolloré et leur nouveau système d'implantation pourraient avoir de plus et pourquoi ça intéresserait les grandes villes nord-américaines à avoir ce système-là?
Bien, je pense que là, il y a une préoccupation environnementale des Canadiens. Mm-hmm. Et aussi, quand on voit, quand on compare, Paris à Toronto, bon, on n'est pas à la même échelle, hein, il y a quatre fois plus d'habitants à Paris mm-hmm. qu'à Toronto. Il y a aussi un partenariat entre le groupe Bolloré et Renault, on y reviendra un peu plus tard. Et Bolloré, lui, il s'inscrit dans une volonté de promouvoir cette blue car dans le cadre de véhicules autopartagés, qui est une considération environnementale mmh. et qui est une préoccupation des habitants de grandes villes de pouvoir effectivement, rouler de manière individuelle, mais dans un système, collectif.
Et là, si on revient un peu plus au pourquoi les compagnies d'automobiles françaises n'ont jamais pu un peu s'implanter et avoir une grosse industrialisation en Amérique du Nord. Tu sais, il y a quand même des gros joueurs, si on peut dire, dans l'industrie de l'automobile qui sont français mondialement. On parle, tu as parlé de Renault, de Peugeot, de Citroën, qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans la chronique. Pourquoi ils connaissent des succès un petit peu partout dans le monde, puis dans les grosses villes mondiales, puis qu'en Amérique du Nord, c'est un peu plus difficile? Quelle raison qui explique ça?
Eh bien, ça doit être historique, d'accord, puisque ça fait près de 30 ans mm-hmm. que les véhicules français, les automobiles françaises sont absentes dans cette partie du monde.
Mais pourquoi ils sont plus ouverts, mettons, aux Japonais, aux modèles allemands, aux modèles français, puis qui pourtant, on a un numérique, sont des gros joueurs dans l'industrie automobile mondiale?
Alors, probablement, ça a été lié à, à une stratégie marketing ouais. inadéquate.
OK. Tu veux dire par quoi inadéquate?
Inadéquate, c'est, on peut considérer, par exemple, le paramètre climatique.
Oui, je comprends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, si on veut, dans le système?
Ben, probablement, au niveau du produit, les véhicules n'étaient pas adaptés, par exemple, aux conditions climatiques au Canada. Et donc, la rouille, la solidité mm-hmm. du véhicule, mm-hmm. la fiabilité du mm-hmm. véhicule. Vous imaginez, William, si vous vous rendez compte du trajet à réaliser mm-hmm. De Toronto au nord de l'Ontario et que vous tombez en panne. Et donc, ça va vous marquer votre esprit. Et qu'est-ce que vous allez probablement penser? Vous dire, plus jamais ça.
Plus jamais une voiture comme ça, exactement. Oui, ça arrive. Oui.
Bon.
Fiabilité, très importante. Tu l'as mentionné, très important. Fiabilité.
La fiabilité. Mmh. Et je pense que c'est une spécificité technique oui. qui est attendue par le consommateur nord-américain. Et principalement dans des régions où le froid, occupe une importance psychologique.
Parce que, tu sais, Peugeot a des très beaux modèles. Si on regarde le design, entre guillemets, pour employer l'anglicisme, ils sont beaux à regarder, c'est des très beaux modèles, mm-hmm. mais quand on revient à la fiabilité, souvent, peut-être qu'une bonne vieille Toyota Tercel ou une Toyota Yaris, t'auras pas de problème, puis tu pourras te rendre dans le Nord, aller faire ton ski la fin de semaine sans aucun problème, puis sans souci.
Eh bien, oui.
Si on revient à ça, la fiabilité.
Si on revient effectivement à une anecdote, d'accord, personnelle, la seule voiture française que j'ai rencontrée, c'est trois derniers mois. C'est une c'est une vieille 504 Peugeot. Alors, je pars pour les anciens, on va dire ça comme ça. Vieille 504 Peugeot immatriculée en Alberta. Donc, la 504 a eu son succès dans les années 70 pour des raisons de fiabilité, puisqu'on la retrouve à la fois là en Alberta, mais aussi dans le plus profond des coins désertiques du Sahara. Et pour des raisons de fiabilité, la population, africaine, mm-hmm. nord-africaine et ouest-africaine, ont élu cette voiture-là et ont été un marché de seconde main pour ces véhicules-là, pour des considérations de fiabilité, de solidité des véhicules. Donc, je pense que,
ces modèles, j'imagine qu'en 2014, ne se font plus de Peugeot.
Alors, je dirais pas ça, mais je penserais que les raisons liées, revenons au marché nord-américain, c'est que il est clair c'est connu de tous que Toyota a su développer sa stratégie internationale dans le monde pour des raisons de fiabilité.
Absolument.
À la fois les raisons de fiabilité, tu l'as cité, la Yaris, du véhicule, mais à la fois la fiabilité du réseau de distribution. Et donc, dans ce sens, le réseau de distribution français...
Tu veux dire baser le marketing sur ça, que nos voitures sont fiables et vous n'aurez pas de problème avec. Tu parles vraiment de baser ton côté marketing sur ça?
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Toyota, vous allez faire votre petite SAV, service après-vente, après l'achat d'un véhicule, périodiquement, et vous avez effectivement un questionnaire qui vous est remis de manière à mieux réfléchir à la maintenance du véhicule et au principe même de la fidélisation du client.
Et le meilleur exemple, c'est justement, on revient à Toyota encore une fois, la Toyota Tercel, qui je pense, Toyota n'en produisent plus depuis au moins une dizaine d'années facile. Et on en retrouve encore sur les routes, Toyota Tercel. Ça fait une dizaine d'années que Toyota n'en produit plus. Je ne vais pas me tromper là, dans les années, mais les derniers modèles, ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois, Toyota Tercel, vraiment. Après ça, ils sont allés plus vers la Corolla, vers la Yaris. Mais Tercel, puis on en retrouve encore. Il y a même une panoplie sur les routes canadiennes nord-américaines. Donc, c'est un des bons exemples qu'on vient d'énumérer.
Oui. Et alors, bon, on peut souligner un petit cocorico français au travers, en fin de compte, une présence capitalistique française chez Nissan. Comme vous le savez, 43,4% de Nissan est la propriété du groupe Renault.
Oui.
Et aussi, il faut considérer ce paramètre, de stratégie internationale de l'alliance Renault-Nissan. Il semblerait s'expliquer au travers d'une volonté de distribuer des véhicules Renault pour les pays émergents, pour les marchés émergents, et l'Amérique du Nord serait le marché pour les véhicules Nissan.
Une petite anecdote comme ça, on dirait que Renault, quand ils avaient leur écurie dans la F1, dans la Formule 1, fin des années 80-90, me semble que ça marchait mieux mondialement pour la vente de véhicules. Je sais pas si ça a un impact là, en tant que tel, mais petite anecdote. On dirait que c'est une impression personnelle, mais je sais pas si c'est un peu la réalité.
Oui, pour te donner tout à fait raison, c'est qu'effectivement, il y a eu, en France, une publicité où ce qui était mis en avant, c'était le moteur Renault, et Renault
avec la Formule 1,
effectivement, la Formule 1,
le gros,
voilà, c'est ça,
la machine,
exactement. Et effectivement, le Renault se considère comme un créateur d'automobile et non pas comme un fabricant d'auto. Donc, dans ce sens-là, l'innovation faite à
c'est quoi la différence
Renault,
entre les deux, tu crois?
C'est-à-dire que, en fait, compte aujourd'hui. Alors la différence, elle est, comment dire, elle est.
Je comprends la nuance que tu veux apporter.
Elle est industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un constructeur automobile, d'accord, prenons le cas de GM, General Motors, ou n'importe quel autre constructeur automobile, il travaille avec un certain nombre de filiales.
Oui.
Et donc,
pas le choix
pour des raisons, de coûts. Pas le choix pour des raisons aussi de qualité, de spécialité. Et le cœur de la stratégie du groupe Renault, c'est réaliser un concept et effectivement faire adhérer les partenaires les plus fiables, d'accord, sur trois éléments. La capacité à réaliser quelque chose avec une très bonne qualité, avec un coût qui, en l'occurrence, est compétitif. Et un paramètre de délai où, en l'occurrence, logistiquement, la filiale ou l'entité partenaire est en mesure de satisfaire le concepteur d'automobile qui est Renault, Peugeot ou Citroën.
Donc là, pour conclure, vraiment, c'est un peu le retour après plusieurs décennies un peu de l'industrialisation des voitures, des automobiles, des compagnies d'automobiles françaises, si on veut le retour au marché nord-américain pour essayer de tenter de reséduire, si on veut, les citoyens nord-américains. Donc, on a parlé, on va essayer de recopier le modèle. Souvent, quand on se compare aux meilleurs, ben, on peut relier hein, à peu près le calcage, si on veut. On a parlé de Toyota. Honda est également un modèle qui a réussi mondialement. Donc, les compagnies américaines, si on peut en conclure, Brahim, les compagnies françaises, donc, crois-tu que ça va vraiment monter et la croissance de vente automobile va continuer dans les prochaines années et qui pourrait s'implanter dans le marché nord-américain?
Ben écoute, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a au moi, Canada plus d'un million de véhicules qui ont été vendus. Le mois d'août, ça a été
cette année,
on parle 2014, mm-hmm. ça a été un record pour l'industrie automobile canadienne.
Ben, c'est bon,
le mois d'août. Et aujourd'hui, il y a plus d'un million de véhicules qui ont été vendus. Au Canada, on ne parle même pas d'Amérique du Nord, mais restons sur le territoire canadien. On a des véhicules, des grandes marques américaines, japonaises et allemandes qui ont une croissance à deux chiffres. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de là ? Le constat, c'est qu'on est sur un marché qui est en pleine forme et qui est important.
Et qui est en montée.
Et qui est en constante croissance, d'accord, puisque, comment dire, on a quand même une capacité... et une volonté des consommateurs canadiens de renouveler leur véhicule tous les 3 à 4 ans. Donc la fréquence d'achat assez courte serait une opportunité pour les constructeurs français. Et à mon sens, et comme tu l'as souligné, la capacité d'être innovateur, la fameuse parabole au travers du moteur F1 Renault, donc d'innovation, la capacité du design français de pouvoir, comment dire, s'insérer sur ce marché-là et essayer de reconquérir, d'accord, un marché qui aujourd'hui est, pour les années à venir, à mon sens, une opportunité de réalisation de chiffre d'affaires.
Parce qu'il ne faut pas se cacher, les voitures aujourd'hui, que ce soit n'importe quel modèle, sont moins performantes, sont moins, comment je pourrais dire, solidifiées qu'avant. T'sais, dans les années 80, souvent, tu pouvais garder un véhicule pendant une quinzaine d'années puis tu n'avais aucun problème avec. Maintenant, aujourd'hui, tu achètes une voiture neuve puis un an après, tu peux quasiment avoir déjà quelques problèmes. Souvent, pas des problèmes majeurs. Là, t'sais, faut quand même pas généraliser. Mais souvent, ça arrive vite, les problèmes que tu as bien énumérés. Souvent, aux 3-4 ans, un consommateur va changer son automobile. Maintenant, on a des locations hein, avec les concessionnaires automobiles qui, à peu près, aux 4 ans, je crois, tu peux louer une automobile. Tu la ramènes aux 4 ans, tu peux changer de modèle dépendant dans quel état tu la ramènes. Donc, on se dirige beaucoup vers ça, hein, un changement d'automobile aux 3-4 ans, puis ça va être comme ça pour les prochaines années.
Et c'est là, effectivement, que l'analyse de Xavier Pietri, le président de la Chambre de commerce française au Canada, est juste. C'est-à-dire que l'absence de véhicules français aujourd'hui s'explique par le coût de redéploiement du réseau de distribution.
Ouais.
C'est-à-dire, comme tu l'as très bien illustré, c'est que à la fois, il faut être en mesure de commercialiser un véhicule et il faut être en mesure de pouvoir effectivement entretenir et d'avoir un réseau de distribution fiable à l'échelle géographique d'un pays aussi grand qu'est le Canada.
Très juste, belle conclusion. Gros merci, Brahim. Donc, cette semaine, pour la chronique économie, on traitait donc sur un article publié sous ta plume, mon chum Brahim, dans l'Express, bien sûr, le journal français de Toronto, fin septembre, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Express, l'express.to, en un mot. Donc, cet article sur le marché de l'industrialisation des compagnies de voitures françaises qui essaient de s'implanter dans le marché nord-américain et ça semble fonctionner, du moins lors de la dernière année. On vous a énuméré quelques cas. Un gros merci, Brahim.
Merci à toi, William.
On se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Salut! Et nous, on continue en musique dans Par ici la sortie sur les ondes de Choc FM.